Les parts actualités. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 mai 2017 et je suis très heureuse de vous présenter les parts actualités sur Canal M. Je m'appelle Clotilde Seille et voici les titres. Montérégie Ouest, attente interminable pour une place en réadaptation. Tous les moyens sont bons pour aider la Société canadienne de la sclérose en plaques. À Roughton, malgré l'effondrement d'une rue, les organismes demeurent ouverts. Enfants avec un problème auditif, un handicap surmontable. Et puis aussi, simulation de vol pour personnes autistes en Nouvelle-Écosse et l'humour irrésistible des tétras dans le film Patient. Tout cela accompagné de deux entrevues, comme tous les jours. D'abord avec Nathalie Richard, fondatrice et directrice de l'Étoile de Patcho, un réseau d'entraide pour parents d'enfants handicapés. Et aussi avec Edith Case, directrice générale de l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs, autrement dit l'AQEPA. Vous savez que nous sommes en plein mois de la parole et de l'audition. Âgé de 86 ans, le père de Louise Théoret attend depuis un mois et demi à l'hôpital du Suroît à Valleyfield d'obtenir une place dans un centre de réadaptation, écrit Ariane Lacourcière dans la presse. C'est une attente interminable, selon Madame Théoret, qui craint que ces longs délais ne freinent son père, qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral, un AVC, dans sa réadaptation. Au Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS de la Montérégie Ouest, on reconnaît que 28 personnes sont actuellement en attente d'une place dans une unité de réadaptation fonctionnelle intensive en déficience physique dans toute la Montérégie. Et de ce nombre, 7 ont subi un AVC. Madame Théoret est d'autant plus inquiète qu'elle craint que plus le temps passe et plus les chances de voir son père récupérer s'amenuisent. On nous dit tout le temps que les 3 premiers mois après l'AVC sont les plus importants. On attend son transfert vers un centre de réadaptation depuis des jours, mais rien ne bouge, dit Madame Théoret, qui affirme que son père reçoit actuellement un peu de services de réadaptation et d'orthophonie à l'hôpital. Mais plus pourrait être fait. Les gens sont débordés. Je ne sais plus vers qui me tourner. Je suis découragée, dit-elle. Au CIS de la Montérégie Ouest, on dit que l'attente moyenne pour obtenir une place en réadaptation est de 17,3 jours et que des cas comme celui-ci sont rapportés, que ne sont rapportés que très rarement. Le nombre d'admissions dans une unité de réadaptation fonctionnelle intensive en déficience physique en Montérégie en 2016-2017 a été de 260 et la durée moyenne de séjour dans ces unités a été de 55 jours. Tous les moyens sont bons pour aider la Société canadienne de la sclérose en plaques. La section Montérégie de la Société canadienne de la sclérose en plaques propose diverses activités tout au long du mois de la sensibilisation de l'ASP afin de décrire la maladie, mobiliser les communautés et informer les personnes atteintes du soutien disponible. Du 10 au 13 mai, ce sera, donc à partir d'aujourd'hui, ce sera la campagne de l'œillet. La vente de bouquets aura lieu au métro Longueuil les 10, 11 et 12 mai, ainsi qu'à l'épicerie IGA, Louise Ménard de Saint-Lambert, les 11, 12 et 13 mai. Aussi, la course Défi Espoir invite les coureurs à prendre part à l'un des parcours, 1 km pour les enfants, 5 et 10 km qui sillonnera le parc de la Cité dans l'arrondissement de Saint-Hubert le 27 mai prochain. Toutes les informations se trouvent sur le site web www.coursedefiespoir.com. Le mois de la sensibilisation prendra fin le 28 mai avec la marche de l'espoir également au parc de la Cité. L'organisme a besoin de quelques bénévoles pour compléter ses équipes dynamiques et aider tout au long du mois de mai. Pour les personnes intéressées, vous devez écrire à info.montérégie@sclérose-en-plaques, au pluriel, pour plaques.ca. Je me souviens que j'avais été un petit peu sidérée quand j'avais lu cette nouvelle il y a quelques mois, c'est-à-dire d'apprendre qu'il y a encore des parents qui sont obligés de se plaindre à qui de droit pour pouvoir ne serait-ce que changer leur enfant dans des conditions décentes lorsque l'enfant en question est handicapé et qu'on est encore obligé de le changer, genre par terre, au milieu de n'importe qui, dans un restaurant ou autre. Et je suis contente aujourd'hui de recevoir au moins par téléphone et de pouvoir m'entretenir avec Nathalie Richard. Bonjour, Madame Richard.
Bonjour.
Madame Richard, vous êtes fondatrice et directrice de l'école de Pachot. Tantôt, j'ai dit Pachot, c'est peut-être mon petit côté étoile. Étoile de Pachot,
oui,
c'est peut-être... Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai changé, étoile? École, oui.
Mais c'est l'étoile de Pachot, oui, c'est bon.
Oh, écoutez, ça ne fait pas si longtemps que ça. J'étais dans quelques pays où on aurait peut-être dit Pachot, ne m'en veuillez pas.
Voilà.
Madame Richard, vous avez donc fondé, vous êtes la directrice du réseau d'entraide pour parents d'enfants handicapés. Je précise que Pachot, c'est le surnom de votre garçon, hein, David,
oui,
qui a maintenant 10 ans, qui vit avec une paralysie cérébrale sévère. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous a poussé à un moment donné à vous poser beaucoup de questions et à agir, n'est-ce pas? C'est comme cela que votre organisme est né.
Absolument. En fait, vous savez, il y a quand même une prise en charge importante chez les enfants qui sont lourdement handicapés une fois qu'on sort de l'hôpital, mais il n'y a rien qui est mis en place par le gouvernement pour soutenir les parents. Donc, je me suis retrouvée très vite à la maison, complètement isolée, pas au courant des ressources et des outils dont j'avais le droit. Je me suis rendu compte en rencontrant d'autres parents environ un an et demi plus tard que tous les mêmes parents comme moi étaient dans la même situation. Puis là, on se retrouvait ensemble, puis on s'échangeait de l'information, puis on se rendait compte de toute la bible d'informations.
Le désert. Qu'on...
Oui, absolument, c'est ça. Donc, le besoin est vraiment parti de là. Puis ça l'a germé dans ma tête pendant quelques années. Les premières années de vie avec mon fils ont été très difficiles. Il était quand même gravement malade. Donc,
bien sûr.
Ça a pris du temps avec tout ça se mettre en place, mais ça fait 4 ans maintenant que j'ai fondé l'organisme qui vient en aide à plus d'une centaine de familles à Montréal.
Parce que il en existe d'autres quand même de ces organismes, mais le problème, c'est qu'il faut les connaître, c'est ça?
Absolument, mais je dois être très honnête avec vous. Nous sommes le seul organisme au Québec qui vient en aide aux parents d'enfants,
aux parents handicapés, d'enfants
de handicapés de la façon qu'on le fait.
D'accord.
Il existe d'autres organismes à Montréal et
oui,
ailleurs
oui.
au Québec, mais qui offrent en général beaucoup de répit. Donc,
oui.
nous, on n'offre pas du répit. Nous, on offre de l'intervention à domicile auprès des familles afin
D'accord.
de les informer sur les ressources qui existent dans le milieu.
Quels sont les besoins particuliers des parents qui viennent de recevoir un diagnostic d'handicap ou de maladie grave ou même plusieurs de leurs enfants?
Il y en a beaucoup.
Il y en a tellement, hein?
Je vous dirais que le premier, à la base, là, je pense que c'est vraiment de communiquer avec quelqu'un qui comprend ce qu'on vit.
Oui.
Il y a un très grand besoin pour les parents de communiquer finalement, de dire de nommer ce qu'ils vivent, de parler de leur détresse. Donc, à la base, il y a un grand besoin d'écoute. Les besoins, ensuite, c'est de les outiller justement vers toutes les ressources qui existent. Il existe une panoplie de services que le CLSC peut offrir.
Oui.
Mais dans la façon que ça fonctionne, dans notre beau Québec,
oui.
c'est qu'on est en attente pendant bien longtemps avant de voir un travailleur social du CLSC et de recevoir ces services-là.
Mais c'est fou parce qu'on se dit, comment se fait-il qu'en 2017,
oui.
il n'y ait pas, par exemple, des livres que l'on puisse remettre avec aux parents d'enfants atteints avec justement toutes ces ressources
ben,
à
vous
trouver.
Savez, ça
Et
existe.
Ça n'existe, oui.
Oui, 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 ça existe. Le CLSC a mis ça en place il y a plusieurs années.
Bon.
Je vais être très honnête avec vous. Les livres, là, quand on est un parent d'enfant nouvellement handicapé, on est perdu, on est fatigué, on est
D'accord.
épuisé, on dort pas. Moi, on oui. me l'a remis, ce livre-là. Savez-vous ce que j'ai fait avec?
Non.
Il est passé sur le coin de mon bureau, puis il est resté là pendant des années, enseveli sous d'autres papiers plus importants. Donc, on
Je
prend
comprends.
Pas le temps de lire ça. Puis, vous savez, c'est très administratif, bureaucratique.
Oui.
On a besoin, je pense, c'est vraiment la grosse partie de notre travail, nous, quand on va rencontrer les familles à domicile, on vient avec ce document-là. On en a fait un autre aussi plus simple, nous-mêmes.
Oui.
Puis, on explique aux parents c'est quoi les programmes, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut remplir, es-tu admissible?
Mm-hmm.
On fait le tour, on prend le temps. C'est ce que les parents, je vous dirais, en grande majorité, ont besoin.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Je comprends tout à fait. Et bon, je voudrais que vous nous donniez précisément des exemples de ressources ou de recours que des parents que vous avez rencontrés ne connaissaient pas.
Ah, oh, mon Dieu, écoutez, la plus flagrante, là,
oui.
qui me choque encore à jour parce que c'est arrivé au moins une dizaine de fois en 4 ans, c'est des familles qui ont un enfant, disons, de 10 ans et plus, qui est en couche. À partir de l'âge de 3 ans, il y a un programme qui est mis en place par le gouvernement qui rembourse les couches en totalité pour l'année. Comment se fait-il que ces familles-là ont payé pendant plusieurs années les couches et que personne ne les a informées?
Oh
Ça
là
me
là
met
là.
hors de moi.
Mais je
Mais je vous
comprends.
dis, c'est arrivé souvent. Donc ça, c'est un des choses importantes là auxquelles on est intervenu auprès de la famille du CLSC pour rectifier ça. Il y a des familles aussi qui sont refusées des programmes de soutien d'aide à domicile. Souvent, on doit appeler CLSC et on sait quoi dire, finalement, argumenter pour faire passer la demande et la famille. Ensuite, a droit à plusieurs heures par semaine d'aide payée à domicile. Donc, c'est des choses qui changent grandement la qualité de vie au quotidien à la maison.
Il faudrait que vous ayez l'occasion, à un moment donné, Mme Richard, de pouvoir aller rencontrer nos députés à l'Assemblée.
Tellement.
Et il me semble, vous imaginez, raconter votre quotidien. Là, ça devrait pouvoir se faire. Ça, avez-vous déjà essayé de faire ça, non?
On n'est pas rendu là encore. C'est sûr que ça fait partie dans les projets. Il y en a beaucoup avant de se rendre là.
Oui.
Mais effectivement, en fait, je pense que ça prendrait plus que d'aller le raconter. Il faudrait qu'ils viennent dans notre vie.
Exactement.
Il faudrait qu'ils viennent dans notre maison juste 24 heures. Ils seraient dépassés par ce qu'on vit au quotidien.
Notamment par l'absence d'installation, lorsque vous avez besoin de changer, que ce soit David, donc Pachou, ou tous les enfants, dans les lieux publics, souvent,
absolument,
il n'y a rien. Ce n'est
pas
prévu.
Mais c'est pas souvent. Il n'y en a pas au Québec. La première place qui a été inaugurée, je pense que vous en avez entendu parler, c'est à l'aéroport.
À l'aéroport, on l'a,
mars dernier.
Oui, on l'a annoncé, évidemment. Mais
oui,
alors, on s'en est fait comme une nouvelle extraordinaire.
Ben
mais
oui,
finalement,
parce que c'est la première place.
Ben oui.
Mais c'est assez aberrant de voir qu'on est si en retard. Vous savez, tout dernièrement, là, la semaine dernière, je suis allée à l'hôpital avec Fiston. Fiston a 10 ans, fauteuil roulant, il est incontinent, je devais changer sa couche, c'était un peu urgent. Et au nouvel hôpital de Montréal pour enfants, au Glen, il n'y a pas encore de salle adaptée d'hygiène pour le changer.
Hôpital pour enfants.
Oui, l'hôpital de Montréal pour enfants, c'est ça, enfants, n'est-ce pas? Donc, j'ai dû demander à quelqu'un, puis là, les gens me disent, ben, allez changer aux toilettes, mais je peux pas le changer aux toilettes, j'ai besoin d'une table à langer.
Mais non.
De
ben,
grande taille.
Fermez la bolle, madame, j'imagine.
Oui,
que...
non, couchez-le par
suis...
terre, échangez-le
ben,
par
oui,
terre,
suis...
vous coucherez-vous par
en
terre.
Tout cas.
Vous...
Madame
bref,
Richard...
ça a pris un bon 5-10 minutes de s'organiser
ouais.
pour nous trouver une place.
Nathalie
donc,
Richard, juste en quelques secondes, vous travaillez avec Altergo hein, pour essayer de faire changer les choses à Montréal.
Oui, on travaille en collaboration avec Altergo qui nous accueille dans leur local depuis quelques mois.
Bon, d'accord. Ben, écoutez, espérons que tout cela fasse bouger les choses et merci de nous en avoir parlé ce matin de cette réalité avec autant d'éloquence. Nathalie Richard, fondatrice et directrice de l'Étoile de Pachot. On l'embrasse, Pachot.
Ça me fait grandement plaisir.
Bien fort. Allez, bonne journée. Au revoir.
Merci, au revoir.
Par actualité régionale, malgré l'effondrement d'une partie de la rue Queen à Rawdon, les 7 organismes communautaires autonomes qui logent au 4046 rue Queen entre la 16e et la 17e avenue souhaitent rassurer leurs membres, clients et partenaires, que les locaux sont ouverts et accessibles. En effet, à la suite de cet effondrement, survenu le 26 avril, certains usagers craignaient que ces organismes ne soient contraints de fermer. Or, le stationnement est toujours accessible et les services sont maintenus. Les organismes communautaires présents dans l'immeuble sont l'Association des personnes handicapées Matawini, Cybercible et son centre de copie, le Carrefour Jeunesse Emploi Matawini, l'Association des travailleurs et travailleuses accidentées de Jolimont, Parrainage civique Lanaudière, Panda Lanaudière Nord et le réseau d'aide aux alcooliques et autres toxicomanes. Enfant avec un problème auditif, c'est un handicap surmontable. C'est écrit par Jean-François Vachon pour TC Média. Avoir un enfant éprouvant des problèmes auditifs pose certains défis pour les parents. Comme le mois de mai, celui de l'audition, deux parents ont accepté de témoigner de leur réalité dans le journal La Frontière, Le Citoyen. À La Sarre, chez la famille de Roxane René, la vie suit son cours. Son enfant, Noah Goulet, 11 ans, n'entend rien de son oreille droite et il entend très partiellement de celle de gauche. Comme Noah entendait un peu d'une oreille, il n'a pas eu besoin d'un plan cochléaire. Son appareil auditif lui permet d'entendre les sons via son oreille gauche. L'apport de cet appareil l'a aidé à rapidement retrouver une partie de son ouïe. Au début, je voulais que Noah ait les cheveux longs pour le cacher. Ce fut une adaptation, a mentionné sa maman. Chez la famille de Maxime Lafleur, le diagnostic est tombé plus tard que prévu. Leur garçon était sourd de naissance, confie M. Lafleur. Cela a tout changé dans la famille. On a dû apprendre le français signé. C'est un langage qu'on ne connaissait pas et qu'on se devait d'apprendre, a-t-il relaté. Par la suite, leur enfant a subi une chirurgie pour recevoir l'implant. Il n'aura jamais une audition parfaite, mais on développe des stratégies de communication, comme de lui taper sur l'épaule pour lui faire signe, de le regarder quand on parle, a précisé son père. Pour les parents vivant avec un enfant qui éprouve des problèmes auditifs, les services offerts en région notamment font une différence majeure dans leur vie. Et il faut souligner l'aide apportée par l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs, l'AQEPA, de l'Abitibi-Témiscamingue, qui a fait une différence pour les familles de Roxane René et de Maxime Lafleur. Et puisqu'il est question de l'AQEPA, restez avec nous dans quelques secondes. Je m'adresse à Edith Caisse, directrice générale de l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs. C'est le mois de la parole et de l'audition et on nous annonce un nouveau guide pour les parents, un partenariat entre CIUS, avec le CIUS de l'Estrie. Edith Caisse, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, écoutez, vous avez entendu hein, ce dont j'ai parlé un petit peu avant, l'AQEPA.
Oui, pour Roxane et Maxime,
voilà,
oui.
C'est ça. Hein, en Abitibi-Témiscamingue, Dieu sait si pour ces parents-là, vous êtes une aide précieuse. Alors, je trouvais que ça tombait bien de lire cet article juste avant de vous recevoir pour que vous nous parliez aujourd'hui, bon, très rapidement. La mission d'abord de votre organisme et puis ensuite, donc, on va vous demander comment votre organisme souligne-t-il le mois de la parole et de l'audition.
Mais écoutez, c'est simple, l'AQEPA, c'est l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs. C'est un regroupement d'associations régionales, de parents, de professionnels de la santé, de membres sympathisants. Mm-hmm. Et nous, notre mandat, c'est vraiment d'informer, de soutenir les parents. Puis on fait aussi la promotion de la cause dans la société. Dans les régions comme en Abitibi, exactement, c'est ça, l'AQEPA est présente là et offre différents services aux parents. Mm-hmm. Mais c'est vraiment de l'entraide. Hein. On est là aussi pour les écouter, les accompagner, on organise des activités, comme par exemple au mois de mai, on a le 19 au 22, c'est notre grande fin de semaine familiale à Contrecoeur. Alors les parents, les jeunes vont venir là, puis ils ont la chance de se rencontrer à nouveau, de discuter au fond de comment ça se passe dans leur vie, de partager des idées. On aura plein d'ateliers et
est-ce qu'il y aura des conférences peut-être? Oui, c'est
oui.
Ça. D'accord. Alors ça, on va en reparler à la fin de notre entrevue parce que vous nous redonnerez les dates et vous nous direz comment s'inscrire à cette fin de semaine familiale. Alors, votre guide, parlons de ce guide à l'intention des parents qui vient d'être mis à jour. En quoi consistait cette mise à jour?
En fait, c'est que, bon, c'est ça, nous avons fait, ce guide a été fait l'année passée, très grand partenariat avec la Fondation des sourds du Québec qui a mm-hmm. assuré le financement et tout ça. Et ça, c'est un guide finalement qui relate comment un parent qui vient d'apprendre la sourdité, comment ça va se passer. Il y a des témoignages de parents, comment ils ont vécu l'annonce, etc. Et puis aussi, c'est quoi la sourdité, le site de sourdité, à quoi s'attendre pour le futur. Ce que nous avons fait, c'est s'assurer que l'information est encore plus à jour pour que les parents y trouvent encore plus de, comment dire, que ce qu'on y consacre, ça soit encore plus aidant pour eux. On a changé, par exemple, certains aussi des diagrammes, etc., qui nous a semblé plus explicites pour les parents, pour comprendre comment ça se passait. On a aussi essayé de le rendre plus attrayant, ajoutant des couleurs et tout ça. On en a profité parce qu'en fait, les 5000 exemplaires qui avaient été édités l'année passée se sont épuisés très, très rapidement parce qu'on couvre la province de Québec au complet.
Mais oui.
Alors, c'est beaucoup et vous savez, il y a quand même, c'est quand même de 4 à 6 enfants par tranche de 1000 hein, qui naissent avec une surdité au Québec.
Mais
alors, les besoins sont grands.
Ils sont effectivement assez énormes.
Ouais.
Alors, comment fait-on pour se le procurer, ce guide-là remis à jour?
Bien, premièrement, moi, j'inviterais tout le monde qui veut en savoir plus d'aller sur le site de l'AQEPA.
D'accord.
Alors, www.aqepa.org. Le guide est là en PDF. On peut aussi, dans différentes régions du Québec, il peut y en avoir dans l'AQEPA même. Il y a aussi sur le site Internet de la Fondation des sourds du Québec. Les gens peuvent en commander directement là aussi.
D'accord. Et puis, je peux vous dire que moi-même, d'ailleurs, je je suis allée hein, sur le site à plusieurs reprises.
Oui.
Oui, puis je le trouve très bien fait. Il est très facile, vraiment, d'accès. Alors, bravo à toute l'équipe. Mais je vous en prie, quand on parle de partenariat avec le CIUS de l'Estrie, on parle de quoi exactement?
En fait, vous voyez, dès que les parents reçoivent l'annonce du diagnostic de leur enfant, après, là, l'équipe entre en ligne de compte pour les aider parce qu'il y a quand même un vide entre l'annonce et la prise en charge par le centre de réadaptation. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que tous les centres de réadaptation du Québec, lorsqu'ils reçoivent des parents qui ont un enfant avec une surdité, qu'ils avisent automatiquement, systématiquement de l'existence de l'AKEPA pour qu'on puisse les aider rapidement. Là.
Oui,
et ce qui arrive, c'est que ça, c'est pas obligatoire dans les centres de réadaptation. C'est inégal, si vous voulez, en termes de réception. Quoique j'avoue qu'à peu près tout le monde aide beaucoup, mais là, ce qui constitue une première, c'est que le CIUS et l'AKEPA de l'Estrie, finalement, ont vraiment fait ensemble une entente de partenariat formel.
Oui.
Donc, systématiquement, tous les intervenants de première ligne dans le CIUS en Estrie informent les parents de l'existence de l'AKEPA et leur explique les services, qui est un net avantage pour les parents.
Bien sûr.
Parce que plus tôt ils sont informés, plus tôt nous, on pourra les accompagner.
Bien sûr. On en parlait encore il y a quelques minutes avec Mme Richard, qui s'est trouvée complètement démunie lorsque son fils a reçu un diagnostic, bon, pour une autre maladie, qu'est la paralysie cérébrale. Mais elle dit, on n'est pas informé. Alors, j'imagine que dans votre cas, c'est aussi une réalité. Et heureusement qu'il y a des organismes comme les vôtres, hein, c'est certain. Je voudrais qu'on revienne très rapidement, avant de se quitter, sur cette fin de semaine familiale à Contrecoeur. Ça se passe où à Contrecoeur et on s'inscrit comment?
Alors, ça se passe du 19 au 22 mai à la colonie des Grèves à Contrecoeur. C'est vraiment, pour ceux qui veulent participer, c'est pour les membres de l'AKEPA.
Okay.
Ceux qui ne le sont pas, mon Dieu, c'est une occasion unique pour venir connaître justement l'AKEPA. Alors, simplement aller sur le site Internet de l'AKEPA, devenir membre et puis nous faire part. Et ils peuvent s'inscrire aussi directement sur le site pour participer avec nous.
Ben, c'est très, très bien. Merci beaucoup, Edith Kaes. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs, l'AKEPA. Nous vous remercions beaucoup, encore une fois, d'avoir répondu à nos questions.
C'était un vrai plaisir pour moi aussi.
Allez, bonne journée.
Vous aussi.
Au revoir, Edith. Au revoir.
Au revoir.
Par actualité nationale, simulation de vol pour personnes autistes en Nouvelle-Écosse. L'aéroport international Stanfield d'Halifax a entrepris d'offrir des séances de simulation de vol pour permettre à des personnes autistes de se familiariser tranquillement avec les airs, un événement qui peut être particulièrement stressant pour eux. L'établissement a effectué une toute première simulation en fin de semaine, une séance à laquelle a pris part Derek Greenwood, un jeune homme de 20 ans qui présente un trouble du spectre de l'autisme. Le TSA. Les personnes autistes éprouvent des problèmes sensoriels parfois et la simulation, c'est pour faciliter ce trajet. Kelly Corbett, coordonnatrice du programme de bénévoles à l'aéroport international d'Halifax, nous dit que pour M. Greenwood et sa famille, il était intéressant de participer à ces simulations en prévision d'un premier voyage prévu cet été. Le jeune homme appréhende le vol parce qu'il l'associe aux scènes catastrophiques vues dans les films. On lui demande depuis des années de faire un voyage, mais il refuse toujours, indique le père du jeune homme, Gregory Greenwood. Afin de faciliter son périple en avion, toutefois, Derek peut désormais participer aux simulations et ces dernières permettent aux participants de se familiariser avec le processus d'enregistrement, d'embarquement et bien sûr avec le vol lui-même. C'était un texte de Stéphanie Blanchet tel que paru sur le site de Radio-Canada suite à un reportage. Et puis, celui-ci nous vient du Journal de Québec, écrit par Cédric Bélanger, l'humour irrésistible des tétras. Du slam au cinéma, il y a un pas que Grand Corps Malade franchit avec une étonnante aisance, écrit M. Bélanger, dans le film Patient, une biographie déguisée en fiction qui revient avec un humour irrésistible sur sa période de réadaptation à la suite d'un accident qui l'a laissé tétraplégique à l'âge de 19 ans. Dès les premières secondes, nous dit-on ici, on est happé. Lors de l'arrivée au centre de réadaptation de Ben, l'alter ego de Grand Corps Malade, joué avec brio par Pablo Paoli, est représenté du point de vue du jeune homme allongé sur une civière. Cet angle oppressant qui nous fait partager l'impuissance de Ben et annonce la mise en scène inventive du duo de réalisateurs, Grand Corps Malade lui-même ayant travaillé de concert derrière la caméra, avec son grand ami Mehdi Idir. Alors par la suite, oui, la routine quotidienne s'installe et puis on fait la connaissance des autres grands éclopés avec qui Ben nourra de profondes amitiés et des membres du personnel, dont cet aide-soignant à l'hilarante et agressante bonne humeur matinale. Au final, malgré les deuils, Ben, Grand Corps Malade, devra renoncer à la carrière dans le sport dont il rêvait et les difficultés inhérentes à la nouvelle condition des parents. Cette incursion dans le même centre de réadaptation qu'avait fréquenté pendant un an Grand Corps Malade s'avère tout sauf déprimante. Au contraire, Patient constitue une puissante ode à la vie et à la résilience, cette même résilience qui a fait de Grand Corps Malade 20 ans après le bête accident qui a changé sa vie. L'un des artistes musicaux les plus importants en France. Si Patient en est un bon indicateur, sa carrière de cinéaste sera aussi électrisante à suivre. Un film donc de Grand Corps Malade et Mehdi Idir avec Pablo Paoli, Soufiane Guerab et Moussa Mansali. C'est à l'affiche en ce moment. Patient. Voilà, et puis je vous rappelle que si vous désirez aller sur notre site internet, vous aurez l'occasion de pouvoir réentendre l'entrevue que Maxime Despomerleau a pu faire avec Grand Corps Malade et son compère, ceux qui ont donc réalisé ce film Patient. Si vous l'avez raté en direct, c'est pas grave. Le site internet vusezvoix.com, la radio Canal M, et vous allez pouvoir réentendre ça. L'émission s'appelle « Sortir ». En rafale maintenant, retour de la page Facebook de la Semaine québécoise des personnes handicapées, l'OPHQ, pour une quatrième année consécutive. Nous vous invitons à visiter et à aimer la page Facebook officielle de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Elle a été mise en ligne le 3 mai. Cette page, qui est un lieu d'information, c'est aussi un espace d'échange, que ce soit sur la Semaine québécoise des personnes handicapées qui aura lieu du 1er au 7 juin, ou plus globalement sur la participation sociale des personnes handicapées. Vous êtes invités à découvrir le hockey sonore le samedi 20 mai 2017. Tous les handicapés visuels de la région de Montréal, à partir de 8 ans et plus, à l'aréna Glenn J. Chamandy. C'est au 4090 Avenue Royale à Montréal. Le samedi 20 mai 2017 à 14h, vous pourrez vous inscrire à ce moment-là. Sur la glace, vous y serez de 15h à 16h. Et c'est une invitation à laquelle vous pouvez répondre en contactant Hibou de Montréal, Hibou au pluriel donc avec un X, hein, comme il se doit, hiboudemontréal@gmail.com. Voilà ce qui met un terme au Par Actualité du 10 mai 2017. Merci à mon équipe, c'était Clotilde Say qui vous souhaite une bonne journée et qui vous dit à demain, 11h30.